Donc nous continuons notre étude de l'Ancien Testament par le livre de Job. Je vous l'avais expliqué dans l'introduction à la Sainte Écriture qu'il y a trois catégories de livres dans l'Ancien Testament. Vous avez d'abord les livres historiques, ensuite vous avez les livres sapientiaux ou livres de la sagesse, et enfin vous avez les livres prophétiques. Alors ici, après avoir vu les livres historiques, nous allons rentrer dans la catégorie des livres de la sagesse. Dans ces livres, on peut dire que c'est là que se révèle un petit peu l'âme des Hébreux dans l'Ancien Testament, dans leur relation avec Dieu. Et donc, il ne s'agit pas simplement de faire une simple histoire de ce qui s'est passé ou de prophétiser l'avenir. Il s'agit d'analyser un petit peu les sentiments qu'ont pu avoir les Hébreux à l'égard de Dieu, face à Dieu. Alors, une des questions qui a le plus travaillé les hommes depuis l'origine de l'humanité est, comme vous vous en doutez, le problème du mal. Pourquoi le mal ? Pourquoi la souffrance ? Le mal est un mystère. Le mal restera toujours un mystère, donc le but de la conférence, ce n'est pas d'élucider le mystère. Et même depuis la venue de notre Seigneur, si ce mystère du mal a été éclairé par la passion de notre Seigneur, malgré tout, le mal reste encore un mystère pour nous. Mais un mystère qu'on peut approcher avec déjà plus de certitude et avec des éléments qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Ainsi, nous savons aujourd'hui que la souffrance librement acceptée, unie à celle de notre Seigneur, cette souffrance est un moyen pour nous d'expier nos péchés. Nous savons également que la souffrance est un moyen pour nous de manifester, de prouver notre amour de Dieu. Mais si l'on se place dans le contexte de l'Ancien Testament maintenant, il faut donc se mettre dans la conception des Hébreux avant la venue du Messie, avant la venue de notre Seigneur. Ils n'avaient pas devant les yeux la passion de notre Seigneur. Et ils n'avaient pas non plus une claire vision de l'au-delà. Aujourd'hui, un des moyens pour nous d'accepter, je ne dis pas de comprendre, mais au moins d'accepter les souffrances de cette vie, c'est de penser à la disproportion qu'il y a entre les souffrances de la terre et les souffrances du purgatoire. Et ainsi, nous savons, par la foi, que nous pouvons ici-bas expier nos péchés en acceptant chrétiennement les souffrances que le bon Dieu nous envoie. Mais dans l'Ancien Testament, le ciel était fermé. C'est notre Seigneur qui a réouvert le ciel. Et donc, dans l'Ancien Testament, les Hébreux n'avaient pas une claire vision de l'au-delà. L'au-delà dans l'Ancien Testament, c'était ce que les Hébreux appelaient le Shéol. Le Shéol, c'était pour eux une espèce d'existence ralentie, où les âmes menaient un peu la vie des ombres. Mais il ne s'agissait pas d'une claire vision du ciel, du purgatoire et de l'enfer, comme nous l'avons aujourd'hui. C'est pourquoi, étant donné qu'ils n'avaient pas de claire vision de la rétribution dans l'au-delà, pour les Hébreux, la rétribution devait se faire en ce monde. C'est ici-bas que le bon Dieu doit récompenser les justes, et c'est ici-bas que le bon Dieu doit châtier les coupables, qu'il doit châtier ceux qui n'observent pas la Torah, ceux qui n'observent pas la loi. Et donc, toute l'histoire du peuple hébreu rentre dans ce cadre. Ils n'ont pas devant les yeux la passion de notre Seigneur, ils n'ont pas une claire vision de l'au-delà. Alors, c'est justement dans ce contexte que va apparaître le livre de Job. Comme nous allons le voir, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, la conception de la rétribution en ce monde va paraître insatisfaisante pour certains. Elle va se heurter à la réalité. En effet, la réalité nous montre parfois la prospérité des méchants et la misère chez certains justes. Alors pour essayer de relativiser la prospérité des méchants, on se dit que cette prospérité va avoir un terme. Les méchants vont mourir un jour. Leur bonheur n'est que de courte durée. Mais comment expliquer la misère du juste ? Dieu ne lui a-t-il pas promis le bonheur en ce monde ? Et c'est là, c'est cette question que l'on trouve tout au long du livre de Job, et auquel il va donner, comme nous allons le voir à la fin de cette conférence, une première réponse qui préparera les esprits à la révélation du juste souffrant, à la révélation de notre Seigneur. Ce livre a été écrit, il semble, au 5e siècle environ avant Jésus-Christ. Bon, là, les auteurs sont un petit peu disputés. Il y a différents avis là-dessus. Il semble qu'il ait été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il entre donc dans la catégorie des livres de la sagesse, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une narration fictive à portée morale. Toute l'histoire de Job n'est pas à prendre au pied de la lettre. Job a réellement existé, ça c'est sûr. Son existence d'ailleurs est attestée dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit, la Sainte Écriture se comprend par la Sainte Écriture. Et Saint Jacques dit dans le Nouveau Testament, « Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous avez vu comment Dieu y a mis fin. » Donc Job a réellement existé. Saint Jacques chapitre 5, verset 11. Le livre de l'Ecclésiastique également mentionne qu'Ézéchiel a parlé de Job. Ézéchiel nomme Job à côté de Noé et d'un homme nommé Daniel. Ils sont désignés tous trois comme des justes et des intercesseurs. Ainsi, le livre de Job a un fond historique. Ce n'est pas un livre historique, mais il a un fond historique, mais qui a été librement et amplement élaboré pour en sortir une portée morale. On peut dire que les dialogues qui vont apparaître dans le livre de Job sont probablement des créations de l'auteur sacré. Et d'après saint Thomas d'Aquin, l'apparition de Dieu qui aura lieu à la fin peut être interprétée comme étant une révélation intérieure que Job a eue à la fin de ses souffrances et qui lui ont aidé à mieux comprendre le pourquoi de ses souffrances. La ville de Job est Us, aux confins de l'Idumée et de la Palestine, c'est-à-dire au sud de la Palestine. L'auteur du livre est un juif palestinien, un sage qui était au courant des écoles, un esprit profondément religieux. Alors maintenant, nous allons essayer de voir le plan du livre. Il y a tout d'abord un prologue en prose, les deux premiers chapitres, que nous allons lire tout à l'heure. Ensuite, il y a trois cycles de discours avec les amis de Job. Job va répondre à chacun de ses amis. Ensuite, il y aura le discours d'Éliou. Nous allons voir qui était Éliou. Et à la fin, il y a le discours de Dieu. Et enfin, on termine par un épilogue. Et tout cela forme 42 chapitres donc, dans ce livre de l'Ancien Testament. Présentation des trois amis de Job. Le premier s'appelle Eliphaz de Théman. C'est un sage qui en sait beaucoup. Il a des paroles amicales et persuasives. Bildad de Choua. Il est bouillant, il est jeune, il ignore les complexités de la vie. Tsophar de Nama. C'est un violent. Il croit aboutir mieux que les autres par le sarcasme, comme nous allons le voir. Alors tous ces trois amis vont intervenir au milieu des souffrances de Job pour essayer de le convaincre que s'il souffre, c'est parce qu'il a péché. Et Job, au contraire, est convaincu. Il sait, au fond de sa conscience, qu'il est innocent. Alors pour Job, qui est au creuset de la souffrance, le fait d'écouter ses amis qui essaient de palabrer pour essayer de donner un sens à ses souffrances, ça reste de pures abstractions qui ne parviennent pas du tout à le toucher en profondeur, et qui n'arrive surtout pas à calmer sa douleur. Quant à Éliou, c'est un jeune également au style assez monotone et verbeux. Il veut lui aussi être l'avocat de Dieu, mais son discours va passer également à côté du tourment réel que connaît Job. C'est un justicier qui ne comprend pas du tout la psychologie de l'homme souffrant. Alors, avant de nous plonger maintenant plus avant dans le livre, précisons la doctrine qui y est contenue. On peut dire que c'est une discussion sur la souffrance qui procède par thèse et antithèse. L'antithèse va être présentée par les amis de Job, c'est que la souffrance est la punition du péché. Et la thèse, qui est une antithèse dans la présentation, puisqu'au début Job était au contraire dans l'abondance, en raison de sa justice, et la thèse, c'est qu'il y a des cas où la souffrance n'est pas et ne peut pas être la punition de péché qui n'existe pas. Il faut donc chercher autre chose. Alors, quelle est la solution proposée par le livre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, tout d'abord, le prologue. Je vais vous lire ce prologue pour bien comprendre le contexte du dialogue entre les trois amis de Job avec Job. Et pour cela, j'emprunte une Bible que nous avions dans la bibliothèque déjà avant que je ne sois ici au prieuré, qui est de 1825, avec des petites paraphrases qui permettent de mieux comprendre le sens du texte. Donc sans heurter le sens du texte, il y a des petits ajouts. Alors voici les deux premiers chapitres. Cette traduction a été faite à partir de la Vulgate, mais auquel on a ajouté certains éléments tirés de l'hébreu. Pendant que les Israélites étaient affligés en Égypte, il y avait au pays d'Us, situé dans l'Idumée, sur les confins de l'Arabie, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était simple et droit, faisant le bien et s'éloignant du mal et de tout ce qui en avait la moindre apparence. Sa piété et sa justice avaient été récompensées par les biens immenses dont Dieu l'avait comblé. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 moutons, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait de plus un très grand nombre de domestiques, et ainsi il était grand et illustre parmi tous les Orientaux, qu'il surpassait par sa piété et par ses richesses. Une paix et une union parfaites régnaient dans sa famille. Ses enfants allaient les uns chez les autres et ils se traitaient chacun à leur tour. Ils envoyaient prier leurs 3 sœurs de venir manger et boire avec eux, et elles ne faisaient aucune difficulté d'y aller, la dissolution et les excès étant bannis de ces festins qui ne servaient qu'à entretenir entre eux l'union et la charité. Lorsque ce cercle de jours de festin était achevé, Job envoyait quérir ses enfants, et il les purifiait par des cérémonies instituées à cet effet. Et après les avoir ainsi préparés au sacrifice, se levant de grand matin, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Car quoiqu'il ne vit rien de mauvais dans toute leur conduite, il disait en lui-même, « Peut-être que mes enfants auront commis quelques péchés secrets, et qu'ils auront offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job se conduisait tous les jours de sa vie, ayant un soin constant et uniforme de se tenir invariablement uni à Dieu par une exacte piété et d'y unir ses enfants par des sacrifices réitérés. Donc là, on est en train de faire la louange de Job pour montrer que c'était vraiment un homme juste et saint. Or, pendant que Job remplissait si parfaitement les devoirs d'un bon père de famille et d'un fidèle serviteur de Dieu, les anges, qui sont particulièrement les enfants de Dieu, étant ses plus vives images et ses plus parfaites créatures, s'étant un jour présentés devant le Seigneur pour lui rendre compte des ordres qu'il leur avait donnés et pour en recevoir de nouveaux, Satan, leur adversaire, se trouva aussi parmi eux pour lui demander permission de tenter les hommes et de les séduire. Donc, intervention de Satan, qui vient pour tenter Job. Le Seigneur, qui prenait une extrême complaisance dans la fidélité de Job et qui voulait s'en servir pour confondre l'orgueil et la malice du démon, lui dit « D'où viens-tu ? » Il lui répondit « J'ai fait le tour de la terre et je l'ai parcourue tout entière, trouvant partout des hommes très soumis à mes ordres et très empressés à faire ma volonté. » Le Seigneur ajouta « Mais n'as-tu point considéré mon serviteur Job ? Certainement, il n'a point d'égal sur la terre. C'est un homme simple et droit, de cœur, éloigné de tout déguisement et de toute injustice, qui craint Dieu et se retire du mal. » Satan lui répondit, « Est-ce en vain que Job craint Dieu, et n'est-il pas bien payé de tous ses services ? N'avez-vous pas environné de tous côtés comme d'un puissant rempart sa personne, sa maison et tout son bien? Ne les avez-vous pas mis à couvert de tout ce qui pourrait leur nuire? N'avez-vous pas béni les œuvres de ses mains et tout ce qu'il possède sur la terre? Ne s'y multiplie-t-il pas de plus en plus? Est-il donc surprenant qu'un homme que vous traitez ainsi vous soit fidèle? Donc, le Satan qui dit, étant donné que tous les biens qu'a Job, il est parfaitement heureux, et donc ce n'est pas étonnant qu'il loue le bon Dieu. Mais par grâce, étendez un peu votre main et frappez tout ce qui est à lui, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face, et s'il sera toujours cet homme juste et craignant Dieu que vous vantez tant. Le Seigneur, qui voulait confondre l'orgueil du démon et lui faire sentir quelle était la force d'un homme soutenu par sa grâce, répondit à Satan. « Va, tout ce qu'il a est en ton pouvoir, mais je te défends d'étendre la main sur lui, ni de toucher à sa personne. » Et Satan sortit aussitôt de devant le Seigneur, ravi de la permission qu'il en avait reçue et plein d'impatience d'en profiter. Donc maintenant, le démon va dépouiller Job de tous ses biens. Et on va voir si Job, une fois dépouillé de tous ses biens, continuera à servir le Seigneur. Or, il ne tarda pas longtemps à en user ainsi. Car un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient ensemble dans la maison de leur frère aîné, un homme vint dire tout à coup à Job, « Lorsque vos bœufs labouraient et que vos ânesses paissaient auprès, les Sabéens sont venus fondre tout à coup, ont tout enlevé, ont passé vos gens au fil de l'épée, et je me suis sauvé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Cet homme parlait encore lorsqu'un second vint dire à Job, « Le feu du ciel est tombé sur vos moutons et sur ceux qui les gardaient, et il en a tout réduit en cendres, et je me suis sauvé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Il n'avait pas achevé de parler lorsqu'un troisième vint dire à Job, « Les Chaldéens, étant sortis à cheval de leur pays pour faire des courses, se sont divisés en trois bandes, commandées chacune par son chef, et ils se sont jetés sur vos chameaux. Ils les ont enlevés, ont tué tous vos gens qui les gardaient, et je me suis sauvé seul pour venir vous en donner la nouvelle. » Cet homme parlait encore quand un quatrième se présenta devant Job et lui dit, « Lorsque vos fils et vos filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, un vent impétueux s'est enlevé tout d'un coup, aux côtés du désert, a ébranlé les quatre coins de la maison. Et l'ayant fait tomber sur vos enfants, ils ont été accablés sous ces ruines, et ils sont tous morts. Je me suis échappé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Alors Job se leva de dessus son trône. Il déchira ses vêtements, et s'étant rasé la tête, il se jeta par terre, et au lieu de s'emporter en des murmures et des malédictions contre le Seigneur, ainsi que le démon se l'était promis, il adora Dieu. Et montrant la terre où il devait rentrer par la mort, il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je retournerai là nu. Le Seigneur m'a tout donné, le Seigneur m'a tout ôté, il n'est arrivé que ce qui lui a plu, que le nom du Seigneur soit béni. » Ainsi, dans tous ses malheurs si affligeants et si extrêmes, Job ne pécha point par ses lèvres, et il ne dit rien contre Dieu qui fut indiscret. Mais il confondit le démon par sa douceur, sa patience et sa soumission à la divine volonté, et il vengea le Seigneur des insultes de cet esprit superbe. Alors il vient de perdre tous ses biens, il vient de perdre ses enfants également, et il continue de bénir le Seigneur. Alors le démon va intervenir à nouveau pour que maintenant il l'attaque non seulement dans ses enfants, non seulement dans ses biens, mais qu'il l'attaque lui-même dans son corps. Et en disant, bien sûr, pour l'instant, il continue de vous servir parce qu'il est sain et sauf, mais attaquez-le dans sa chair et vous verrez, il vous maudira. Or, les mêmes enfants de Dieu s'étant encore un jour présentés devant le Seigneur, et Satan s'étant aussi trouvé parmi eux, le Seigneur lui dit, d'où viens-tu ? Il lui répondit, « J'ai fait le tour de la terre à mon ordinaire, et je l'ai parcouru tout entière, cherchant toujours quelqu'un à dévorer. » Le Seigneur lui dit encore, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit de cœur, qui craint Dieu et se retire du mal, et qui se conserve encore dans l'innocence, quoique tu n'aies porté à m'élever contre lui, pour l'affliger sans qu'il l'eût mérité, et sans que sa fidélité en ait été ébranlée ?» Satan lui répondit, « Ce n'est pas une grande merveille de voir Job demeurer constant dans des maux qui ne touchent point sa personne. L'homme donnera toujours la peau d'autrui pour conserver sa propre peau, et il abandonnera volontiers tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Mais étendez votre main et frappez ses os et sa chair, et alors vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. » Le Seigneur dit à Satan, «
va. Il est en ta main. Je t'abandonne sa chair, mais ne touche pas à sa vie. » Satan étant donc sorti de devant le Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin qui le couvrait depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job s'étant assis sur un fumier, ôtait avec un morceau d'un pot de terre la pourriture qui sortait de ses ulcères. Alors sa femme, que le démon avait réservée comme un instrument très propre à perdre cet homme juste, lui vint dire « Quoi ? Vous demeurez encore dans votre stupide simplicité ? Maudissez Dieu au moins à présent, et mourrez si vous pouvez obtenir par vos malédictions une mort qui vous délivre des maux dont toutes vos bénédictions n'ont pu vous garantir. » Job lui répondit « Vous parlez comme une femme qui n'a point de sens. Si nous avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons-nous pas aussi les maux ? » Ainsi, dans toutes ces choses, Job ne pécha pas par ses lèvres, et la violence de ses douleurs, les insultes de sa femme, la fureur du démon ne purent lui arracher une parole d'impatience ou de murmure. Mais il demeura toujours dans la soumission, le respect et la fidélité qu'il devait à Dieu. Et alors maintenant, les trois amis vont intervenir. Cependant, trois princes, amis de Job, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, partirent chacun de leur état pour le venir trouver. Eliphaz de Théman, Baldad de Choa et Sophar de Nama. Ils arrivèrent tous trois en même temps, car ils s'étaient donné jour pour le venir voir ensemble et le consoler. Lors donc que de loin ils eurent levé les yeux pour le considérer, ils ne le reconnurent point, tant il était défiguré. Et ayant jeté un grand cri à la vue des maux dont il était accablé, ils commencèrent à pleurer. Et selon l'usage de leur temps et de leur pays, ils déchirèrent leurs vêtements, ils jetèrent de la poussière en l'air pour la faire retomber sur leur tête, montrant par ces signes extérieurs la douleur intérieure dont ils se sentaient pénétrés et la part qu'ils prenaient aux maux dont ils voyaient que Job était affligé. Ils demeurèrent avec lui assis sur la terre durant 7 jours et durant 7 nuits. Et pendant tout ce temps, nul d'entre eux ne lui dit aucune parole de consolation, parce qu'il voyait que sa douleur était excessive et trop violente pour être adoucie par de simples paroles. Donc là, je pense que cette introduction, ce prologue, vous met déjà dans l'esprit des souffrances de Job. Et l'introduction que j'ai faite tout à l'heure vous montre bien le problème qui se pose. Job est innocent, Job n'a pas péché, et Job souffre. Alors pourquoi souffre-t-il, lui qui est innocent ? Alors que le bon Dieu, normalement, dans l'Ancien Testament, il semblait qu'il fasse souffrir les méchants et qu'il bénissait au contraire les justes par toutes sortes de grâces temporelles. Alors on peut constater du point de vue littéraire que la richesse de Job est manifestée par des multiples de 10. Il a 10 000 brebis et chameaux, 1 000 bœufs et ânes et 10 enfants. Les messagers qui annoncent la perte qu'il avait de ce qu'il avait arrivent dans un ordre croissant. Il y a les pillards du désert, les Sabéens et les Chaldéens, et ensuite il y a le feu de Dieu, c'est-à-dire la foudre et l'ouragan. Et ensuite la grande épreuve qui semblerait être une lèpre tuberculeuse. Alors les trois amis qui s'assoient près de lui pendant 7 jours et 7 nuits, c'était le temps d'un deuil à cette époque-là, et Job étant comme mort, au milieu de tant de misère, c'est pour cela que ses amis le pleurent pendant 7 jours et 7 nuits. Alors maintenant, le passage le plus long, ce sont les 3 cycles de discours avec les amis de Job. Chacun des amis va prendre la parole pour essayer de consoler Job, et surtout pour essayer de faire en sorte que Job avoue ses péchés, en pensant que si Job avoue son péché, le bon Dieu lui pardonnera et il retrouvera la santé. Et Job, au contraire, n'arrête pas de dire à ses amis qu'il est innocent. Alors il serait trop long ici, bien sûr, de lire tous ces chapitres qui forment la plus grande partie des discours de ce livre. On pourrait faire un résumé de chaque discours des amis avec la réponse de Job, mais comme il y a plusieurs réponses qui se recoupent, ça pourrait aussi être assez long. Alors je me contenterai de regrouper les arguments qui se retrouvent parmi les trois amis, et tout d'abord de considérer les sentiments de Job dans sa souffrance. Tout d'abord, la première chose qu'on remarque
face à sa souffrance, la souffrance de Job, c'est la plainte. Job qui souffre se plaint, il se plaint de sa souffrance. Il y a en partie l'apitoiement de son propre sort. Cet apitoiement, malgré tout, prend peu de place dans les discours. On ne le trouve qu'à 2 ou 3 reprises. Ainsi, au chapitre 7, « J'ai eu en partage des mois de rien, et ce sont des nuits de peine qu'on m'a comptées. Si je me couche, je dis, quand me lèverai-je, et quand viendra le soir, et je suis rassasié d'angoisse jusqu'à l'aube. Mon âme s'épanche en moi, les jours d'affliction m'ont saisi. Et encore, ma peau a noirci sur moi, mes os sont brûlés de fièvre. » Job cherche surtout à décrire la gravité de ses souffrances et le caractère insupportable de sa maladie. « Oh, si l'on pouvait peser mon chagrin et mettre ensemble mes maux dans la balance, car ils seraient certainement plus lourds que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles se précipitent, car les flèches du Tout-Puissant me transpercent et mon esprit en boit le venin. » Les flèches du Tout-Puissant me transpercent, donc au-delà des maux physiques qu'il a, il considère déjà que c'est Dieu qui le fait souffrir. Au-delà des souffrances, au-delà des causes secondes, il voit la cause première qui est Dieu. Dieu le fait souffrir. Et pourquoi Dieu le fait-il souffrir, lui qui est innocent ? Le Tout-Puissant me transperce et mon esprit en boit le venin. Je suis rassasié d'angoisse jusqu'à l'aube. Ma chair s'est revêtue de vermine et d'une croûte terreuse. Ma peau se gerce et coule. La misère de Job s'étend ensuite à la misère de l'homme en général. Job, au milieu de sa souffrance, essaie de considérer après plus largement la souffrance de tout homme sur la terre. Et là, il y a de très belles réflexions sur la brièveté de la vie. « Mes jours sont plus rapides qu'un coureur, il fuit sans en avoir vu le bonheur. » Et surtout, cette parole bien connue, « L'homme né de la femme vit peu de jours, et il est rassasié de misère. Comme la fleur naît et se fane, il fuit comme l'ombre sans s'arrêter. » Après cette plainte contre l'apitoiement de son sort, qui prend quand même peu de place dans les discours, il y a la plainte contre ses amis. Les amis de Job deviennent ses ennemis. Ils n'arrivent pas à le consoler, ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de ses souffrances, et au lieu de le consoler, au contraire, l'obscurité de leur discours ne fait qu'affliger davantage Job. Job expose que ses amis l'ont trompé et il se défend. « Mes frères ont été décevants comme un torrent, comme le cours des torrents qui passent. Ainsi êtes-vous pour moi. Voyant une horreur, vous avez peur. Vous jetez le dévolu sur un orphelin. Vous trafiquez de votre ami. Maintenant, daignez vous tourner vers moi et je ne vous mentirai pas en face. » Chapitre 6, verset 13 et suivant. Et dans le second cycle de discours, la plainte va s'étendre maintenant à tout l'entourage, non seulement à ses amis, mais à tous les hommes qui l'entourent. « Dieu a éloigné de moi mes frères, mes connaissances se sont détournées de moi, mes proches ont disparu, mes intimes m'ont oublié, les hôtes de ma maison et mes servantes me tiennent pour un homme venu de loin, je suis un étranger à leurs yeux. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas, alors que de ma bouche je le supplie. Ma femme s'éloigne de mon haleine, et mes fils également. Les enfants aussi me méprisent, ils jasent à mon sujet. Tous mes confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se tournent contre moi. » Donc vous voyez le pauvre, dans quelle misère il se trouve. Après l'accusation de ses amis et de son entourage, qui ne le comprend pas, l'accusation maintenant va porter sur Dieu lui-même. Mais comme on verra, puisque nous savons que Job n'a pas péché, comme on le verra à la fin, ces accusations de Dieu ne peuvent se comprendre comme étant liées à l'excès de sa souffrance. Elles s'annoncent tout d'abord dans l'abomination du jour de sa naissance, au chapitre 3. « Périsse le jour où je fus enfanté, et la nuit qui a dit un homme a été conçu, ce jour-là qu'il soit ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci et que la lumière ne brille pas sur lui. » Job excuse ensuite sa louange désespérée en attribuant son état à Dieu. Les flèches du Seigneur sont sur moi et mon esprit en boit le venin. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les terreurs de Dieu sont rangées en bataille contre moi. Et son accusation s'achève par des questions. Des questions que Job adresse à Dieu lui-même au milieu de sa souffrance. Qu'est-ce que l'homme pour que vous en fassiez tant d'estime ? pour que vous le visitiez dès le matin. Comme c'est Dieu qui l'afflige, le fait que Dieu l'afflige, ça veut dire que Dieu s'occupe de lui. Mais si Dieu s'occupe de lui, qu'est-il donc pour que Dieu puisse s'occuper d'un être si mésirable? Qu'est-ce que l'homme pour que vous en fassiez tant d'estime? Quand détournerez-vous de moi votre regard? Quand me laisserez-vous avaler ma salive? Ai-je péché? Que puis-je faire, ô gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à vos coups et me rendre à charge à moi-même? Que n'effacez-vous pas mon iniquité, car bientôt dans la poussière je me coucherai, vous me rechercherez et je ne serai plus. Donc, quand il dit ça, vous me rechercherez, je ne serai plus, dans la poussière je me coucherai, donc il fait appel ici en ce moment-là à la mort. Pourquoi le bon Dieu nous afflige tant sur la terre alors que nous ne passons que quelques années ici-bas, et car ensuite la vie se termine, puisqu'il n'avait pas encore toute la vision de l'au-delà? Pour moi, c'était une question disputée, mais normalement il n'avait pas la claire vision, en tout cas, que nous avons aujourd'hui. Ainsi, l'accusation de l'ennemi est reportée maintenant sur Dieu. Dieu m'a livré aux scélérats, il m'a livré aux mains des méchants. Sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait tort et qui m'a enveloppé de son filet. Il m'a considéré comme son ennemi. La main de Dieu m'a frappé. Et là, c'est intéressant de voir que tous les livres dans l'Ancien Testament sont en quelque sorte la figure du Nouveau Testament et la figure de notre Seigneur. Et on peut très bien appliquer, bien sûr, ces paroles de Job à notre Seigneur. Dieu m'a livré au scélérat. Dieu le Père qui livre son Fils unique, au scélérat, donc à ses bourreaux. Il m'a livré aux mains des méchants. La main de Dieu m'a frappé. Toutes ces paroles peuvent être prises au pied de la lettre à notre Seigneur. Il m'a considéré comme son ennemi. Après la plainte chez Job, on voit également les désirs et les supplications. On voit trois désirs en Job. Le désir de mourir, le désir de paix, et ensuite, troisième désir qui va amener l'intervention de Dieu, le désir de rencontrer Dieu. Le désir de mourir tout d'abord. Que Dieu daigne m'écraser, qu'il délie ma main, et qu'il me retranche de la terre des vivants. Chapitre 6, versets 8 et 9. Mon âme préférerait l'étranglement. Chapitre 7, verset 15. Le désir de mourir apparaît du chapitre 3 au chapitre 10, et ensuite il va disparaître. Ici on peut constater que Job désire mourir, mais il ne pense pas du tout au suicide. Il faut savoir que le suicide était inconnu dans l'Ancien Testament. Le seul cas de suicide qui soit rapporté dans la Bible, c'est celui de Ahitophel. Ahitophel qui avait soutenu Absalom dans sa révolte contre son père, contre le roi David, et qui ensuite, en voyant que finalement c'était le roi David qui allait vaincre son fils, avait fini par se pendre. Mais c'est le seul cas dans la Sainte Écriture où il est fait mention de suicide. Dieu étant maître de la vie, c'est lui qui décide de l'heure de notre mort. Et ça, c'était vraiment ancré dans la conscience des gens. Ensuite, après le désir de mourir, le désir de paix. Laissez-moi, c'est le leitmotiv que l'on retrouve tout au long du premier cycle. Mais laissez-moi, vous voyez, il s'adresse toujours à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit bien cela, aussi bien dans le livre de Job que dans les psaumes, c'est toujours un rapport entre l'âme et Dieu. L'âme est persuadée que Dieu est là près d'elle, et c'est donc à Dieu essentiellement qu'il s'adresse. Donc on voit malgré tout une très grande foi. Épargnez-moi, laissez-moi souffler un peu et que je me repose. Laissez-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle, qu'il retire sa verge de dessus de moi. Et ensuite, le désir le plus fort, qui va augmenter tout au long des discours, c'est le désir de rencontrer Dieu. Job désire rencontrer Dieu pour s'expliquer avec lui. Il est innocent, il souffre, il ne comprend pas pourquoi. Il ne désire plus à parler à ses amis, qui sont devenus maintenant ses ennemis, mais à Dieu seul. Que sa cause soit entendue malgré la mort. Alors il soupire en disant « Ah, si l'humain pouvait entrer en jugement avec Dieu comme un homme avec son compagnon. » Chapitre 16, verset 21. Et plus loin, « Qui me donnera de savoir où trouver le Tout-Puissant? Puissais-je ordonner devant lui un jugement? et remplir ma bouche de réprimande. Savoir les paroles qu'il peut me répondre, comprendre ce qu'il peut me dire. Est-ce à grande force qu'il discutera avec moi? Non, qu'il prête seulement attention à moi. C'est un juste qui dispute contre lui. Et encore à la fin, « Oh, qui me trouvera quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma signature, que le Tout-Puissant me réponde. » Après ces désirs, nous remarquons également des protestations indignées d'innocence. C'est bien sûr au cœur du drame que vit Job. Il souffre et il est innocent. Alors il proteste de son innocence. Et il proteste d'autant plus que ses amis pensent qu'il est coupable. Ma justice subsiste, il n'y a pas de perversion sur ma langue et je sais discerner le bien du mal. Puissais-je seulement justifier ma conduite devant lui? Il connaît ma conduite, qu'il m'éprouve au creuset, je sortirai comme l'or, mon pied n'a pas lâché ses traces. J'ai gardé sa voix sans dévier, je ne me suis pas écarté du commandement de ses lèvres et en mon sein je conservais les paroles de sa bouche. Et ensuite la protestation d'innocence et le désir de Dieu vont se retrouver au dernier discours de Job et qui vont permettre ensuite à Dieu d'intervenir. Quelle part Dieu m'envoie-t-il d'en haut et quelle lot le Tout-Puissant envoie-t-il des hauteurs? La ruine n'est-elle pas pour l'injuste et le malheur pour les artisans d'iniquité? C'est le grave problème qui se pose. La ruine n'est-elle pas pour l'injuste? Lui, il est juste et il est dans la ruine. Pourquoi? Ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai cheminé en fausseté, si mon pied s'est hâté vers la tromperie, que Dieu me pèse dans de justes balances, et il reconnaîtra ma perfection. Et après, il décrit toutes les fautes qu'il aurait pu commettre et qu'il n'a pas commises. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai méprisé le droit de mon esclave ou de ma servante, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai brandi ma main contre l'orphelin, si j'ai mis dans l'or mon assurance, si je me suis réjoui du malheur de mon ennemi, si j'ai caché mon péché, si j'ai fait tout cela, je comprends que je sois coupable, mais je n'ai rien fait de tout cela. Alors, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-il accablé de tant de malheurs? Que Dieu intervienne et qu'il lui en donne l'explication. Autre sentiment, mêlé d'ailleurs au milieu des cris de désespoir, il y a la confiance en Dieu. À deux reprises, nous voyons cette confiance en Dieu manifestée. Même au milieu des cris désespoir, on voit Job montrer sa confiance en Dieu. « Terre, ne couvre pas mon sang et que mes cris ne s'arrêtent pas. À cette heure même, voici dans le ciel mon témoin, mon garant dans les hauts lieux. » Et moi je sais, alors il y a ce passage qui est bien connu et qui a été interprété différemment par les pères de l'Église. « Et moi je sais que mon défenseur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. » Et après que ma peau aura été ainsi brisée, même hors de ma chair, je verrai Dieu. Lui que je contemplerai, moi et mes yeux le verront, et non un autre. Donc le fait que Job affirme qu'il verra Dieu, certains ont conclu que Job pensait donc à l'au-delà. Mais les autres paroles du discours semble montrer qu'il attendait justement la rétribution sur la terre. Et c'est une des raisons pour laquelle il ne comprend pas le problème de la souffrance. Alors là, les pères d'Église sont un petit peu disputés. C'est une question disputée. Donc Saint Jean Chrysostome et la majorité des pères pensent que c'est avant la mort que Dieu va le justifier. Et on peut penser que cette réponse est la bonne dans la mesure où justement à la fin du discours, c'est quand il est vivant que Dieu apparaît et qu'il voit de ses yeux de chair. Mais d'après Saint Jérôme et Origène, ils pensent que c'est dans l'au-delà que Dieu devrait le justifier. Et que ce serait donc une preuve de la foi qu'il avait en la résurrection de la chair et au jugement final. Conclusion sur les réflexions de Job. Plus on analyse les discours de Job, plus on se convainc que le véritable problème qui est à l'origine du livre sacré, c'est un problème de théodicée. Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est simplement un justicier rigoureux qui mesure la valeur de l'homme aux œuvres qu'il accomplit en les lui rétribuant strictement dès ici-bas? Ou n'est-il pas plutôt un ami pour les hommes? Est-il un Dieu de miséricorde et de bonté? Est-il vraiment l'amour incréé? Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Job est également une figure de notre Seigneur. Notre Seigneur, qui est par excellence le juste souffrant, Job est une figure du juste souffrant. Quels sont les arguments des amis pour s'opposer à cette innocence de Job? Il y a trois arguments. L'argument principal invoqué tout le long, les méchants doivent périr. On le retrouve dans les six discours du premier cycle. Eliphaz s'en rapporte à son expérience. Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri et où les justes ont-ils été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la peine les moissonnent. Au souffle de Dieu, ils périssent et le vent de la colère les anéantit. Donc Eliphaz remarque, soi-disant, dans son expérience, que l'innocent est toujours dans la prospérité et les méchants sont au contraire dans l'adversité. Donc si Job périt, c'est qu'il est coupable. Bildad se rapporte, lui, à la tradition des ancêtres. Donc il paraîtrait que depuis toujours, les ancêtres avaient pensé la même chose. Est-ce que Dieu fait fléchir le droit ou bien le Tout-Puissant fait-il fléchir la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur transgression. Donc là, il fait allusion au fait que les fils de Job sont morts. Si les fils de Job sont morts, c'est parce qu'ils avaient péché. Pour toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es droit et pur, aussitôt il veillera sur toi. Il rétablira la demeure de ta justice. Il suffit que Job confesse son péché et le bon Dieu lui rendra la prospérité. Demande donc aux générations antérieures et sois attentif à l'expérience de leur père. Sophar est encore plus prudent, lui souhaite que Dieu parle à Job. Ô, qui fera que Dieu parle, qu'il ouvre ses lèvres pour te répondre, qu'il te révèle les secrets de la sagesse, si compliqués pour la réflexion. Tu sauras alors qu'il te fait oublier tes péchés. Donc d'après Sophar, Job a péché, il a sans doute oublié ses péchés, mais c'est bien parce qu'il avait péché que le bon Dieu l'a puni. Dans le second cycle du discours, on retrouve la même idée. La vie des méchants ne peut être que malheureuse. Je vais te montrer, écoute-moi, et je te raconterai ce que j'ai vu. Tous les jours du méchant sont angoisses, et peu d'années sont réservées à l'oppresseur. Mais là encore, la réalité se heurte à cette façon de voir. Alors ici, il donne trois arguments pour montrer pourquoi les méchants périssent. Si les méchants périssent, c'est soit parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, soit parce qu'ils ont tenu des pièges contre le juste, ils y tombent eux-mêmes, ou soit parce qu'ils ont volé le bien des pauvres. Le second argument qui fait pendant au précédent, le premier argument donc c'était les méchants doivent périr, le second, les justes connaissent la prospérité. Les justes s'enrichissent, mais pas les pécheurs. Le bon Dieu avait promis des bénédictions par de nombreux enfants chez les justes, mais pas chez les méchants. Si tu reviens vers Dieu et que tu formes un dessein, il te réussira, sur tes sentiers brillera la lumière. Troisième argument, aucun homme n'est juste devant Dieu. Puisqu'aucun homme n'est juste devant Dieu, Job, en se croyant juste, manifeste déjà qu'il est pécheur. Job ne comprend pas sa souffrance en raison de son innocence, et les autres essaient de le convaincre de ce péché en disant que nul homme n'est juste aux yeux de Dieu. Et voici par exemple ce que dit Eliphaz, qui manifeste d'ailleurs le sens de Dieu, c'est sûr. L'homme est-il juste à l'encontre de Dieu? Un humain est-il pur devant celui qui l'a fait? Voici que dans ses anges, il trouve des souillures, alors combien plus chez les habitants aux maisons d'argile. Maisons d'argile, donc, sont nos corps de chair. Bildad, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment serait-il pur l'enfant de la femme? Vois la lune elle-même, elle est sans clarté, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme, cette vermine. On voit l'idée qui se faisait de l'homme. On est loin de la religion de l'homme, hein, qu'on vend tant aujourd'hui. Eliphaz, à nouveau. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Voici que même à ses saints, Dieu ne se fie pas, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Donc trois arguments pour montrer que Job ne peut pas être absolument parfait puisqu'il n'y a pas d'homme parfait ici-bas. La perfection n'est pas de ce monde. Job, lui, argumente différemment de ses amis, on l'a vu tout à l'heure, et à toutes ces objections qui sont posées, il ne répond pas. Dans le livre de Job, on voit également que la louange de Dieu a une certaine place au départ. Aussi bien Job que ses amis louent le bon Dieu, ça montre qu'ils ont aussi le sens de Dieu. Mais ensuite, au fur et à mesure, cette louange va disparaître, et elle ne va réapparaître qu'à la fin, au moment où Dieu va intervenir. Alors maintenant, juste un mot d'Eliou. Il est temps quand même de voir le bon Dieu apparaître pour avoir un peu la solution. Après l'abdication des trois amis, voilà Eliou qui intervient pour prendre la défense de Dieu contre Job. Eliou essaie de montrer la valeur éducatrice de la souffrance et il condamne Job parce qu'il n'accepte pas son sort. Quel humain est comme Job ? Il boit le sarcasme comme l'eau. Et bien que Job soit éprouvé jusqu'au bout sur des réponses qui le rangent parmi les impies. Le fait que Job ne reconnaisse pas son péché montre bien qu'il est un impie. Et donc, que le bon Dieu continue de le punir. À son tour, Eliou est convaincu que si Job souffre, c'est en raison de son péché. Alors, enfin, l'apparition de Dieu. Finalement, après ces discours interminables et la prière incessante de Job, Dieu finit par répondre à son souhait. Il a consenti à venir s'expliquer. Et c'est pourquoi, donc, il va apparaître. Et il va donner la solution, au moins négativement, aux souffrances de Job. La dernière plainte de Job trouve le défi lancé à Dieu et manifeste son désir de rencontrer Dieu. « Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute ?» Et Dieu va y répondre. Alors, comme nous allons voir, la réponse de Dieu, premièrement, ne contient pas la condamnation de Job comme l'attendaient les trois amis. C'est la première observation. Deuxième observation, la réponse de Dieu ne contient pas la justification que Job attendait. Pourquoi cela ? Parce que Dieu ne parle pas comme un homme, mais comme Dieu. Le sens de cette réponse reste encore mystérieux et caché en partie. Celui que Job a défié parle comme celui qui défie à son tour et il pose des questions à Job. Qui es-tu au fond pour me parler ainsi? Es-tu vraiment le Créateur? Alors voilà les réponses de Dieu au chapitre 38. Alors le Seigneur parla à Job du milieu d'un tourbillon et lui dit « Qui est celui-là qui mêle des sentences judicieuses et véritables avec des discours inconsidérés et ignorants et qui obscurcit des vérités claires et évidentes par des raisonnements indiscrets et imprudents ? Vous avez souhaité de disputer avec moi. Saignez donc vos reins comme un homme de cœur. Préparez-vous au combat, je vous interrogerai et vous me répondrez. » Donc Dieu ne répond pas directement, il pose des questions à Job. Où étiez-vous quand je jetais les fondements de la terre? Dites-le-moi si vous avez de l'intelligence. Savez-vous qui en a réglé toutes les mesures ou qui a tendu sur elle le cordeau pour en tracer le dessin et pour le mettre de niveau? Nous direz-vous sur quoi ces bases sont affermies ou qui en a posé la pierre angulaire? Où étiez-vous aussi lorsque les astres du matin et les étoiles brillantes me louaient tout ensemble de l'être que je leur avais donné? Et que tous les enfants de Dieu étaient transportés de joie dans la vue de mes ouvrages, qui portent si sensiblement les caractères de ma grandeur et de ma puissance, de ma sagesse et de ma bonté. Savez-vous qui a mis des digues à la mer pour la tenir fermée lorsqu'elle se débordait en sortant de mes mains comme du sein de sa mère? Lorsque pour vêtements je la couvrais d'un nuage et que je l'enveloppais d'obscurité, comme on enveloppe de bandelettes les petits enfants, je les resserrais dans les bornes que je lui ai marquées. J'y ai mis des portes et des barrières qu'elle ne force jamais. Je lui ai dit, vous viendrez jusque-là, et vous ne passerez pas plus loin, et vous briserez ici l'orgueil de vos flots. Donc il montre comment est-ce que le bon Dieu a mis des limites à la mer. Ensuite, l'obéissance des étoiles. Est-ce vous qui, depuis que vous êtes au monde, avez donné ordre à l'étoile du matin d'annoncer l'approche du jour, et qui avez montré à l'aurore le lieu où elle doit naître? Est-ce vous qui, tenant en votre main les extrémités de la terre, comme on tiendrait un manteau, dont on voudrait secouer la poussière, l'avait ébranlé, et en avait secoué et rejeté les impies? N'est-ce pas moi, au contraire, qui exerce ses jugements sur la terre? Et n'est-ce pas mes ordres qu'après avoir été dépeuplée de la sorte, elle sera rétablie de nouveau sans aucune difficulté, comme on réimprime sans peine sur la terre molle un cachet qui en est effacé? Et ainsi elle sera pour moi, cette terre, avec tous les méchants qui l'habitent, comme un vêtement que je changerai quand je voudrai. Car la lumière des impies leur sera ôtée quand il me plaira, et leur bras, quelque élevé qu'il soit, sera brisé, sans qu'ils fassent la moindre résistance, et ce quand j'y trouve la moindre difficulté. Êtes-vous entrés jusqu'au fond de la mer, et avez-vous marché dans les extrémités de l'abîme? Les portes de la mort vous ont-elles été ouvertes? Les avez-vous vues, ces portes noires et ténébreuses? Avez-vous considéré toute l'étendue de la terre? Déclarez-moi toutes ces choses, si vous en avez la connaissance. Dites-moi où habite la lumière, et quel est le lieu des ténèbres, afin que vous conduisiez ces lumières et ces ténèbres, chacune en son propre lieu. Quand j'ai créé le monde, saviez-vous alors que vous deviez naître? Et connaissiez-vous le nombre de vos jours? Êtes-vous entré dans la connaissance des trésors de la neige, ou avez-vous vu les trésors de la grêle? Savez-vous par quelle voie la lumière descend du ciel, et comment la chaleur se répand sur la terre? Etc., etc., etc. Pourrez-vous vous joindre et lier ensemble les étoiles brillantes des Pléiades pour les empêcher de ramener les douceurs du printemps? Et pourrez-vous détourner l'ours de son cours afin qu'elle ne ramène plus les rigueurs de l'hiver? Donc il y a des tas de questions que pose le bon Dieu et qui sont en même temps une louange à la création. Alors, le bon Dieu, en fait, manifeste surtout sa grandeur. Et Job comprend par la grandeur de Dieu sa petitesse. Et il comprend qu'en cherchant à convoquer Dieu ainsi en duel, en quelque sorte, il a en quelque sorte tenté Dieu, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi il va s'humilier devant Dieu. Job comprend qu'il a été léger. Il s'humilie en disant: voici que j'ai été léger, que vous répondrai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas. Deux fois, et je ne recommencerai pas. Si Dieu était comme Job se l'imagine, Dieu l'aurait certainement écrasé. Mais les discours de Dieu manifestent justement sa bonté pour toute la création. Alors Job est bouleversé par la grandeur de Dieu, ce qui montre qu'il a compris qui est Dieu. Et dans sa deuxième réponse, il le manifeste. Je sais que vous pouvez tout, et que pour nous, aucun dessein n'est irréalisable. Aussi bien je déclarais, et je ne comprenais pas des merveilles qui me dépassent, et je ne savais pas. Mon oreille avait entendu parler de vous, mais maintenant mon œil vous a vu. C'est pourquoi, plein de confusion, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc Job va s'humilier, en se mettant à sa juste place de créature devant Dieu. Il va accepter son sort. Il va accepter de rester sur son tas de déchets, et de supporter les souffrances, les épreuves de Dieu, tant que le bon Dieu voudra. Mais Dieu, ayant maintenant testé la patience de Job, va le récompenser, en le rendant encore plus riche et plus heureux qu'il n'était avant toutes ces épreuves. Yahvé rétablit Job pendant que Job intercédait pour ses amis, et Yahvé accrut au double tous les biens de Job. Alors tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ses anciens amis vinrent le trouver, et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les maux dont Dieu l'avait frappé, et lui donnèrent chacun une kessita et un anneau d'or. Et Dieu bénit les derniers temps de Job plus encore que les premiers, et il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yémina, la deuxième Kessia, et la troisième Keren Yapouk. On ne trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la troisième génération. Et Job mourut vieux et rassasié de jours. Quant au sort des trois amis de Job, Dieu va les condamner de la façon suivante. Après que Dieu eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère s'est allumée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité, comme mon serviteur Job. Maintenant prenez sept jeunes taureaux et sept béliers, puis venez trouver mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, intercédera pour vous.
Car si je n'avais pas égard à lui, je vous traiterais en impie, car vous n'avez pas parlé de moi droitement comme mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Nama allèrent et firent comme Dieu leur avait dit, et Dieu eut égard à Job. Donc il va demander à ces trois personnes d'offrir un sacrifice à Dieu par l'intermédiaire de Job pour être réhabilité également auprès de Dieu. Alors voilà, vous avez la synthèse de ce livre de Job, qui est, je pense, le seul livre de la Bible qui traite de la souffrance. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de livre sur la souffrance, il y a simplement le récit de la Passion de notre Seigneur, qui est suffisamment éloquent. Mais cette question de la souffrance, qui tracasse beaucoup de personnes encore aujourd'hui, c'est certain, peut être, pour certains, abordée d'une façon plus relativement facile, peut-être, à travers ce livre, qui répond indirectement au problème du mal. Et si aujourd'hui, peut-être qu'on a plus de mal à comprendre le sens de la souffrance, c'est aussi parce qu'on a perdu le sens de Dieu. Et la moralité de cette histoire de Job, c'est de montrer que pour réhabiliter Job, Dieu commence par montrer qui il est. Et quand Job réalise qui est Dieu, en ce moment-là, il se met à sa juste place. Quand on entend les gens aujourd'hui parler de Dieu, quand il y a des malheurs qui arrivent, eh bien, et qui prennent Dieu à partie, alors bien sûr parfois c'est lié à un excès de souffrance, ça peut se comprendre, mais souvent c'est lié à une perte du sens de Dieu. Et là on voit que la façon d'accepter la souffrance, c'est de retrouver ce sens de Dieu. Donc encore une fois, la souffrance, le mal reste un mystère. Nous savons comment triompher de ce mystère par son acceptation dans la foi, mais surtout, on ne doit jamais juger de la conduite de Dieu selon notre petite mesure humaine. La souffrance peut très bien être une épreuve temporaire que Dieu permet pour tester la solidité et la vertu de ses fidèles, comme on le voit dans Job. C'est une consolation de voir d'ailleurs qu'à la fin, il a été rétabli dans tous ses biens. Donc on peut dire que ce livre marque une étape dans la révélation du mystère du mal. Auparavant, on s'arrêtait à l'idée que ceux qui souffraient, c'était en raison de leur péché. Le pécheur souffrait, le juste ne connaissait que le bonheur, déjà sur la terre. Ce livre montre que ce n'est pas le cas. Et ainsi, il annonce le juste persécuté par excellence, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Y aurait-il des questions à poser? C'est une question. Enfin, je reconnais que c'est un livre un peu difficile. Hein. Je voyais dans l'introduction qui est fait donc par cette Bible de 1825. Ils disent voilà ce qui fait la matière de ce livre, qui est sans contredit un des plus difficiles de l'écriture, étant plein de métaphores et d'expressions poétiques qui le rendent très obscur. Alors moi j'ai essayé de le rendre le plus clair possible, mais maintenant je ne sais pas si c'est forcément évident pour tout le monde.
Enfin, Job a eu de la chance, son malheur, parce que bah oui, il a tout récupéré et plus.
Mais une des raisons justement pour laquelle Job a tout récupéré et plus et sur la terre, c'était en raison de du fait que justement nous placions dans l'Ancien Testament où il y avait cette rétribution où cette rétribution se faisait davantage sur la terre que dans l'au-delà. S'il avait eu cette rétribution que dans l'au-delà, les Hébreux n'auraient pas compris. Et donc il était nécessaire, vu la mentalité de l'époque, que ce soit sur la terre qu'il soit réhabilité. Mais aujourd'hui que notre Seigneur est venu, on peut très bien...
Non, c'est pas pareil.
Ben non. On vit moins longtemps, oui.
Ah oui, mais heureusement, parce que dans un monde pareil, il y a des gens qui se convertissent, qui sont très bons comme Job. Ouais. Et puis ben, ils dorment bien et tout le reste, ça ne vient pas pour ça. Ils ont perdu.
Ah ben non, c'est sûr.
C'est une histoire de l'Ancien Testament. Comprendre Dieu, peut-être.
C'est déjà bien, c'est déjà bien. Si ça nous fait comprendre Dieu, c'est déjà pas mal quand même.
Oui, bien sûr.
Non?
Mais vous disiez au début qu'il y avait une partie qui était
C'est-à-dire que c'est surtout la présentation qui est... la façon de présenter, bon, on voit bien 10 000, 10 000, 2 000, enfin, ou 1 000, ça, c'était... Et la façon dont c'est raconté elle-même, c'est un peu brodé. Mais maintenant, le fait qu'il ait réellement souffert, qu'il ait vraiment été pris lié dans tous ses biens, c'est sûr. C'est raconté d'une façon poétique, mais c'est une... c'est sûr que c'est une histoire vraie, c'est sûr.
Il a bien dû voir autour de lui des gens qui étaient justes et qui n'ont pas récupéré leurs biens. Ça, ça ne devait pas manquer. Mais lui, Job, ben oui, pourquoi Job et pas un autre?
Ah ben, il n'y avait pas d'homme pareil quand même sur la terre, c'est dit dans le texte.
Tout le monde n'avait pas des milliers de chameaux, des milliers de chèvres, des milliers de... etc.
Oui, mais pour rester sur un tas de fumier avec du mal et tout, il faut
déjà faire.
C'est beau, quoi.
Moi j'aime mieux avoir moins de chameaux et...
Vous avez combien de chameaux? Très bien. Il y a même un chameau qui rit derrière. Oui? Bah oui, justement, je vous ai dit dans le contexte, il y a des passages que je lirai, mais la prochaine fois, ça fait une transition, qui sont tirés du livre du Deutéronome, je pense, où justement Dieu a annoncé déjà des biens sur la terre. Mais et je vous ai expliqué que c'était lié au fait qu'il n'avait pas la vision de l'au-delà. Dans la mesure où il ne pouvait pas avoir une claire vision de l'au-delà parce que le ciel était fermé, et ils attendaient à avoir certaines rémunérations sur la terre. C'est une des raisons pour lesquelles les Juifs n'ont pas su reconnaître notre Seigneur. Parce que eux, ils attendaient un Messie temporel. Alors qu'il y avait, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un sens littéral et il y avait toujours un sens caché. Les Juifs comprenaient le sens caché et les autres, vous voyez que le sens littéral.
De façon générale, ils croyaient à la miséricorde.
Le Dieu de l'Ancien Testament est essentiellement le Dieu de justice. Oui. Mais pour le juste, justement, c'est un Dieu de miséricorde. Et c'est ce que l'on voit. Dans les psaumes, ce sera encore plus net. On voit bien que le psalmiste, c'est pour ça d'ailleurs que les psaumes, on les chante encore aujourd'hui, il y a tous les sentiments qu'une âme chrétienne peut avoir devant Dieu sont exprimés merveilleusement dans les psaumes. Et pourtant, c'était le temps soi-disant de la justice. Disons qu'on insistait plus sur la justice parce qu'ils avaient aussi moins le secours des sacrements. Et l'homme était plus primaire, en quelque sorte, d'une certaine manière, dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est sûr, depuis que notre Seigneur est venu, c'est l'ère de la miséricorde, c'est comme ça. Avant notre Seigneur, c'était plus l'ère de la justice. C'est depuis le péché originel méritait vengeance, il fallait que justice se fasse. C'est normal que c'était le Dieu de justice qui soit plutôt manifesté dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur est la miséricorde même, donc... Mais on ne doit pas mettre en opposition l'un et l'autre. C'est le même Dieu. Il n'y a pas le Dieu de justice et le Dieu de miséricorde, c'est le même Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par le fait que dans le modernisme, on a perdu le sens de Dieu, l'Ancien Testament est un moyen de revenir à ce sens de Dieu. Notre professeur d'Écriture Sainte nous le disait au séminaire, mais c'est vrai, l'Ancien Testament aujourd'hui est un moyen de retrouver à la fois le sens de Dieu et de retrouver également la pédagogie divine pour aller du mal vers le bien. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement éloigné de Dieu que... Et c'est sûr que ces livres de la sagesse sont, je trouve, sont merveilleux d'enseignement.
Mais pour eux, Dieu marquait leur amour, marquait son amour en leur donnant des biens.
Oui, c'est ça. C'était, par exemple, la virginité n'était pas inconcevable dans l'Ancien Testament. Le bon Dieu avait promis une famille nombreuse pour les enfants, c'était pour les Hébreux, c'était comme ça.
Il n'y
avait pas de couvent, il
n'y
avait rien de tout ça.
Et la Vierge, pourtant,
c'était
promis.
Ben oui.
Oui, parce qu'il y avait une expiation.
Parce que c'est la Sainte Vierge.
Il y en avait plusieurs, mais il y en avait plusieurs qui, je pense, devaient, des familles qui devaient attendre ça. Ils ne savaient pas si ça allait venir à côté ou si ça allait venir chez eux. Mais si.
Ouais. Donc,
c'est vers Sainte Vierge.
Bon, voilà. Alors, je sais bien que le but des conférences, c'est de résoudre des problèmes. Enfin, résoudre des problèmes. Essayer d'éclaircir des questions, mais qu'en éclaircissant des questions, on en pose toujours d'autres. Il y a toujours d'autres problèmes qui se soulèvent, mais on est sur la Terre. Alors, bon, ben, au ciel, il y a beaucoup de choses nous paraîtront plus claires, c'est sûr. Mais...
Il ne faut pas éclaircir la question de nous situer un genre qui est un peu spécial, comme nous situer ni dans l'espace, ni dans le temps. Et on ne sait pas s'il est israélite ou non.
C'est ça, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points encore obscurs dans le livre de Job. Et moi-même, j'ai voulu...
Ça semble dans la Bible comme un peu comme une excroissance, un corps étranger qui ne se relie pas,
qui apparaît,
se relie pas au reste. Ça pose un projet à cause.
Oui, non. Disons qu'il se relie au reste dans le sens où dans d'autres passages de cette écriture, on en parle. Quand Ézéchiel en parle, Saint-Jacques en parle... On retrouve également des analogies dans la louange de Dieu qui est faite dans les psaumes et qu'on trouve dans le Job. Il y a quand même des descriptions qui sont un peu analogues. Mais c'est vrai que, placé comme il est, c'est vrai qu'on peut, on peut le concevoir comme étant un livre un peu particulier, parce qu'il tient à la fois de l'histoire et des livres sapientiaux. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes obscurs encore, je reconnais. Et comme je l'avais dit au départ, au début des conférences, à l'introduction de l'Écriture sainte, le bon Dieu, c'est ce que dit saint Augustin, a voulu volontairement que des passages soient obscurs dans le but à la fois de nous pousser à une certaine recherche, parce que notre intelligence aime bien être satisfaite, donc c'est tout à fait normal, mais dans le but aussi de nous conserver dans une certaine humilité pour montrer qu'on ne peut pas malheureusement ici-bas tout connaître. Et même dans la Sainte Écriture, il y a des mystères, c'est sûr. Voilà.